Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, le récit de l'Évangile que nous venons de lire est si divin, si rempli de leçons, que pour commencer saintement ce carême, nous nous contenterons de le relire pour le commenter et en tirer quelques leçons. Alors Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Notre Seigneur, avant de commencer sa vie publique, se retire au désert pour nous apprendre à nous retirer, nous aussi, dans la solitude et la retraite, surtout avant d'entreprendre quelque chose pour Dieu ou quand il s'agit de connaître sa volonté sur nous. Je le conduirai au désert et là je parlerai à son cœur, dit le Seigneur par la bouche du prophète Osée. Ce peut être pour nous l'occasion de réfléchir. Depuis combien de temps ai-je fait une retraite? Ne pourrais-je en prévoir une cette année? Le Saint-Esprit conduisit Jésus au désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Notre Seigneur a voulu être tenté pour deux raisons principales. D'abord, nous dit saint Ambroise, parce qu'il convenait de réparer la désobéissance et la défaite du premier Adam par l'obéissance et la victoire du second. Ensuite, afin que Jésus nous serve de modèle dans nos tentations. Saint Augustin dit que Jésus-Christ, notre général, a daigné se laisser tenter pour apprendre à ses soldats à se battre et à vaincre Satan. Lorsqu'il eut jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Notre Seigneur voulut jeûner pour réparer le péché de nos premiers parents, condamner nos propres péchés de sensualité et nous enseigner à les expier par l'abstinence et le jeûne. Il a voulu nous apprendre quel grand bien est le jeûne, quel bouclier il nous offre contre l'enfer et contre les tentations qui y mènent. Ce jeûne du Sauveur fut complet et absolu. Il ne mangea rien en ces jours-là, dit saint Luc. Et il dura 40 jours et 40 nuits. C'est pour en perpétuer la mémoire que l'Église a établi le jeûne du carême. Ensuite, il eut faim, et le tentateur s'approcha. Ce tentateur, c'est le démon, l'implacable ennemi de l'homme. Ce jeûne de 40 jours l'intrigue. Qui est ce personnage extraordinaire? Il s'approche pour tenter Jésus, pour savoir au juste qui il est. Il veut surtout savoir s'il est vraiment le Fils de Dieu, comme une voix l'a proclamé lors de son baptême. Contre le nouvel Adam, Satan emploie les mêmes armes qui lui réussirent contre le premier et qu'il utilise contre nous tous. Il touche successivement aux trois grandes concupiscences, la sensualité, l'orgueil et la cupidité. Si vous êtes le Fils de Dieu, dites que ces pierres deviennent des pains. Le démon, voyant que Jésus a faim, essaye de renouveler l'attaque qui lui a si bien réussi avec Ève. Il s'approche de lui et avec une adroite flatterie mêlée d'une charité hypocrite, il lui dit « Si vous êtes le Fils de Dieu, vous devez être tout-puissant. » Et une seule parole de votre bouche suffira pour changer ces pierres en pain. Ô Satan, s'écrie saint Jérôme, tu te trompes nécessairement. S'il est assez puissant pour changer les pierres en pain, c'est en vain que tu le tentes. S'il ne le peut pas, c'est en vain que tu le soupçonnes d'être fils de Dieu. Jésus répond simplement par une parole de Moïse. Il est écrit « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi donc, Jésus triomphe de l'orgueil et de la perfidie de Satan par l'humilité et par la parole de Dieu. Il refuse d'employer sa puissance divine pour une satisfaction purement personnelle. Par cette réponse, notre Seigneur nous apprend que les intérêts de l'âme doivent passer avant les besoins du corps, que notre principale nourriture est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu exprimée par sa parole, et qu'il faut nous confier en tout à la divine providence. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Alors le diable le transporta dans la cité sainte et le plaça sur le haut du temple. Le tentateur, battu du côté de la sensualité, ne se décourage pas. Il essaye une autre tentation, plus subtile et plus dangereuse, celle de l'orgueil et de la vaine gloire. Il transporte Jésus dans la ville sainte, Jérusalem, et le dépose sur le pinacle ou la plateforme du temple. Il paraît étrange que Satan ait eu un tel pouvoir et une telle audace de transporter ainsi Jésus. Cela, cependant, ne doit pas nous étonner, car Dieu a voulu laisser aux anges rebelles la puissance inhérente à leur nature angélique. Satan dit donc à Jésus, « Si vous êtes le Fils de Dieu, jetez-vous en bas, car il est écrit, « Il a commandé à ses anges de veiller sur vous, et ils vous porteront dans leurs mains de peur que vous ne heurtiez le pied contre une pierre. » Satan, ayant senti l'effet puissant de la parole divine, cite lui aussi, en vrai singe de Dieu qu'il est, une parole de la Sainte Écriture. Mais Satan, vrai père du mensonge, tronque le texte sacré et l'interprète mal, dit saint Jérôme. Ô Satan, dit de son côté saint Jean Chrysostome, tu as lu que le Fils de Dieu est porté dans les mains des anges, et tu n'as pas lu le verset suivant, à savoir qu'il foule aux pieds l'aspic et le basilic, c'est-à-dire toi-même, le serpent infernal. Notre Seigneur répond à Satan par une autre parole qui le confond. Il est aussi écrit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu ». De même que la première fois, il n'a pas voulu accomplir un miracle pour sa satisfaction personnelle, ainsi dans cette seconde circonstance, il s'abstient de tenter un prodige qui n'eût été qu'une vaine ostentation de son pouvoir sans réelle utilité. Notre Seigneur nous fait comprendre par cette seconde tentation et par la manière dont il la combat que tout en comptant sur l'aide de Dieu dans les choses qu'il nous commande, il ne faut pourtant pas le tenter, c'est-à-dire attendre de lui un miracle ou un secours extraordinaire en nous jetant témérairement dans le danger ou dans l'occasion prochaine de pécher, ou encore en entreprenant des travaux trop difficiles sans nécessité pour satisfaire l'orgueil, la vaine gloire, l'envie de paraître. Restons dans l'humilité et l'obéissance. Remplissons bien nos devoirs d'État et nous pourrons alors compter certainement sur Dieu. On lit dans la vie des Pères du désert qu'un jeune moine, exalté et présomptueux, passionné de la gloire du martyr, voulut à toute force, malgré les représentations et les défenses de son supérieur, aller chercher le martyr en se rendant dans une peuplade cruelle qui ravageait les pays voisins. Saisi et conduit au chef, il s'entendit menacer de mort s'il ne renonçait à la religion. Le pauvre moine, tout tremblant, se jeta à ses pieds, reniant Jésus-Christ et demandant la vie. Le chef, plein de mépris pour une telle lâcheté, fit chasser le misérable et celui-ci revint tout honteux au monastère, confessant sa faute. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Satan, après ce double échec, restant toujours dans la même incertitude, espère plus de succès en recourant à l'appât de la cupidité. Il se saisit donc une seconde fois de Jésus et le transporte sur une haute montagne d'où il lui fait voir tous les royaumes du monde et leur gloire. Alors il lui fait cette promesse : Je vous donnerai toutes ces choses si vous prosternant devant moi, vous m'adorez. Dans Saint Luc, il ajoute que tout cela lui appartient et qu'il le donne à qui il veut. Cette tentation est grossière, mais le démon est habitué à réussir auprès des hommes et à les dominer par ce misérable appât des richesses. Combien d'hommes, combien de chrétiens vendent leur âme au diable par amour de l'argent et des biens de ce monde. Jésus repousse avec horreur et mépris cette offre bien digne de Satan. Il le terrasse et le met en fuite d'une seule parole. Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Rappelons-nous cette parole de Jésus afin de repousser aussi les assauts du démon chaque fois qu'il nous tente, nous promettant des faux biens ou les plaisirs des sens. Une tentation violente nous surprend à l'improviste. Résistons courageusement et disons-lui, « Arrière Satan, le cœur de Jésus est là. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Alors les anges, qui avaient été spectateurs du combat de Jésus, s'approchèrent comme des serviteurs fidèles pour l'honorer et lui obéir. Cette arrivée des anges nous montre les consolations qui suivent une tentation surmontée, ainsi que nous le voyons dans la vie de plusieurs saints. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, mérita de recevoir la visite de deux anges qui le ceignirent d'un cordon mystérieux après qu'il eut repoussé une tentation d'impureté. En conclusion, permettez-nous une suggestion pendant ce carême pour ceux que cela concerne. Le jeûne d'Internet. Le pouvoir du démon sur le monde réel est grand. Mais son pouvoir sur le monde virtuel est plus grand encore. Alors, il ne faut nous servir de ces moyens virtuels que le minimum strictement exigé. Que de temps perdu, que de curiosité inutile, que de tentations et de chutes lamentables qu'on pourrait facilement éviter par un peu de sobriété en ce domaine. Faisons un petit examen de conscience. Combien de temps passons-nous à regarder des films, des vidéos, à lire les dernières nouvelles qu'on nous a envoyées sur la crise sanitaire, sur les élections aux États-Unis, etc. Outre le temps perdu, les dangers pour notre âme, tout cela nuit à notre santé, à notre capacité de réfléchir, à notre vie intérieure. On lit ceci dans la règle de saint Benoît. Pendant le carême, chaque frère reçoit un livre de la bibliothèque. Il le lira à la suite et en entier. On nomme un ou deux anciens qui circulent dans le monastère au moment où les frères font leur lecture, il les surveille et les corrige au besoin. Saint Benoît est le céleste patron de l'Europe, parce que sa règle est un modèle d'équilibre et qu'elle a enseigné l'esprit chrétien, non seulement aux moines, mais à tous ceux qui vivaient autour d'eux et qui recevaient d'eux leur influence. Alors, en ce début de carême, prenons nous aussi un livre. Par exemple, prenons un bon catéchisme. Si vous n'en avez pas, vous en trouverez un choix sur la table de presse. Fixez-vous un temps de lecture quotidien. Le démon verra que vous avez faim de connaître les dernières nouvelles. Il vous dira « Si tu es chrétien, il faut que tu sois au courant des nouvelles sur le complot maçonnique contre l'Église, sur la dictature sanitaire. Tu dois aussi lire tous les messages qu'on t'a envoyés et y répondre par charité. » Répondez-lui « Le chrétien ne se nourrit pas de cette nourriture vaine, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu et que je lis dans mon catéchisme. Quant aux messages de mes amis, je vais les faire attendre un peu pour mieux leur répondre quand il en sera temps. » Alors le démon reviendra. « Tu es chrétien, tu n'as rien à craindre. Ne sois pas si scrupuleux. Allume ton appareil, regarde 5 minutes, puis tu liras ton catéchisme après. » Répondez-lui. « Non, je ne veux pas tenter le Seigneur. Je commence par mon devoir d'État, par tenir ma résolution. » Le démon continuera son cinéma. « Mais enfin, jette un coup d'œil. Tu as le monde entier sous les yeux dans ce petit appareil. Tu peux aller voir des choses si intéressantes, si utiles. Ne vois-tu pas le pouvoir que te donne cet appareil? Il te rend si puissant. » Répondez-lui. « Arrière, Satan, je vois que tu cherches à te faire adorer à travers ce petit appareil, à me faire oublier mon Dieu que je dois adorer. Je ne t'écoute pas, je prends mon catéchisme. » À la fin du carême, si vous avez lutté courageusement, vous vous sentirez plus libre. Vous pourrez alors plus joyeusement fêter la sainte fête de Pâques et renouveler les promesses de votre baptême, de renoncer à Satan et à ses pompes, et Internet en est bien une, et d'appartenir à Jésus, notre Sauveur. Que Notre-Dame nous vienne en aide en ce carême pour résister courageusement à toutes les tentations du démon et pour faire pénitence à la suite de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.